Donc, bonjour, merci Philippe Manoury de m'avoir invité pour cette journée. Je vais vous parler effectivement d'outils virtuels scientifiques pour la représentation et puis surtout en premier temps, dans un premier temps, pour la fabrique physique du son. Ah, ça commence mal. Voilà, excusez-moi. Donc, le contexte est celui de l'acoustique musicale et de l'audio, qui comprend un grand nombre de disciplines, hein, la perception, l'acoustique des salles, le traitement de signal, la synthèse sonore, la physique, évidemment, pour décrire les instruments de musique, la voix chantée, par exemple. Et aujourd'hui, moi, dans cet exposé, je vais me concentrer juste sur cette partie qui est autour de la synthèse sonore, la physique pour décrire les instruments, et puis le traitement du signal. Et Nicolas Aubin parlera tout à l'heure un peu de la voix, donc je l'ai mis en pointillé. Donc le plan va être découpé en deux, hein, grosso modo. D'abord, je vais aborder les questions de la fabrique physique du son, où on a un système ici qui peut être tout simplement un instrument de musique, hein, avec de la physique dedans, et puis on a un moyen d'action, et puis on entend quelque chose, donc ça se passe autour de ce paradigme système et signal produit. Et puis, dans un deuxième temps, on va parler de la représentation du son. Cette fois-ci, on capte un signal et on veut en extraire des informations potentiellement musicales. Alors, concernant la fabrique physique du son, les objectifs sont généralement d'avoir une synthèse sonore réaliste, où on va vouloir restituer tout ce qui est timbre de l'instrument, les attaques, les transitoires, mais aussi tous les régimes et la diversité qu'un instrument est capable de fournir. On s'intéresse aussi, à travers les modèles, à avoir de l'aide à la facture instrumentale ou pour l'audio, c'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer, de prédire ou d'optimiser des instruments, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. Et puis, en troisième objectif, eh bien, le contrôle et la correction de la production sonore. Donc ça, c'est très large, mais un exemple peut être, si je veux augmenter un instrument en lui mettant des actionneurs et des capteurs, je vais pouvoir le faire, ou alors je vais vouloir corriger la qualité d'un haut-parleur, par exemple. Les enjeux sont autour de la réalité virtuelle, donc évidemment dans le domaine artistique qui va nous intéresser aujourd'hui, et puis l'extrapolation de la physique. Et puis, pourquoi pas, c'est des choses qu'on fait avec le musée de la musique aujourd'hui, la reproduction d'instruments anciens. Un autre enjeu va concerner les instruments modifiés, augmentés ou tout simplement nouveaux, et puis aussi des outils pédagogiques, donc et scientifiques et musicaux, et potentiellement de la santé autour de la voix, pour tout ce qui est voix pathologique, par exemple. Donc l'approche que je vais vous présenter repose sur la théorie des systèmes, hein, théorie du contrôle, théorie des systèmes dynamiques, et puis du signal, qu'on retrouve par exemple dans les télécommunications. Et elle va s'appuyer sur, comme vous l'avez compris dans le titre, la modélisation physique. Donc on va parler de mécanique, d'acoustique, d'électronique, de magnétique, etc. Et avec des aspects réalistes, donc la passivité, donc le fait qu'un système ne crée pas lui-même d'énergie, des non-linéarités, je vais y revenir tout à l'heure, de dissipation non idéale, qui sont très importantes dès qu'on veut avoir un son qui ne va pas sonner synthétique. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis des développements technologiques et expérimentaux, donc de mécatronique, de robotique et évidemment de logiciel. Donc voilà, donc la présentation va s'articuler autour des théories des systèmes, théories des signaux sonores, et en fait il s'agit d'un axe continu. Donc là j'ai mis un ensemble de vignettes avec probablement pas mal de noms que vous ne connaissez pas, mais je vais m'appuyer là-dessus justement pour expliquer tout ça. Donc justement, entre l'approche système et l'approche signal, je vais commencer par un outil qui est exactement au centre de cet axe, et qui s'appelle les séries de Volterra, donc nom que vous n'avez probablement pas entendu dans le passé. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cet outil répond à la question « Comment capturer l'évolution du timbre avec la nuance ?» Si j'ai un instrument et que je l'excite de façon deux fois plus fort, eh bien, avec beaucoup d'outils du traitement de signal, on va avoir des systèmes qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire que vous aurez exactement le même résultat deux fois plus fort. Sur un instrument, il ne se passe jamais ça. Si je l'excite deux fois plus fort, le timbre évolue. Et ça fait vraiment partie du naturel qui est nécessaire pour avoir le réalisme du son. Alors j'ai pris ici trois exemples très différents. Le cuivrage des sons, donc si on prend une onde qui se propage dans un tube à fort niveau, eh bien cette onde, si elle est sinusoïdale, elle va avoir tendance à se déformer pour former une dent de scie. Donc là, effectivement, si j'envoie quelque chose qui va être deux fois plus fort, eh bien, je vais avoir un signal en sortie qui va être de plus en plus distordu et qui va se rapprocher de plus en plus d'une DANSI. Si je prends un synthétiseur d'électronique analogique qui a été assez célèbre, fait par Robert Moog, eh bien, les gens de la musique électronique apprécient beaucoup ce filtre parce qu'il a une signature très particulière. Et cette signature très particulière, elle vient de la structure électronique que je n'ai pas répliquée ici, mais qui est constituée de transistors, et les transistors ont des aspects saturants. Et puis enfin, troisième exemple, une corde en grand déplacement. Eh bien, si vous avez des tout petits déplacements, la tension de la corde, on peut la considérer comme constante. Et puis ici, elle a des grands mouvements. Vous voyez bien que la corde va occuper une longueur plus grande, et comme elle a une longueur plus grande, eh bien, sa tension va augmenter. C'est comme si on tirait dessus. Et parce que la tension augmente, ça va modifier la dynamique, et donc ça va modifier le timbre, etc. etc. Alors, les équations ici sont juste là comme support. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est entouré en magenta correspond aux fameuses non-linéarités. C'est ça qui va modifier le timbre, parce qu'on va l'exciter deux fois plus fort. Et autre chose extrêmement importante pour le réalisme, c'est ce qui est en vert, c'est tout ce qui est amortissement. Si j'excite un instrument et que j'arrête de jouer, le son finit par s'éteindre. Alors c'est la palissade que de dire ça, et pourtant dans beaucoup de modèles physiques étudiés par les physiciens, très souvent on commence par étudier des choses assez complexes, mais sans les amortissements. Dès qu'on fait de la synthèse sonore, on en a besoin dès nos premiers modèles. Alors les séries de Volterra, c'est un outil plutôt de l'automatique qui est représenté ici. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a notre excitateur qui est U, notre sortie qui est X, ici. Donc ça, c'est ce qu'on va écouter. Et ça, c'est comme la façon dont on va exciter. Et donc, si je prends juste un des termes qui est ici, donc H1 de taux 1, U de T-taux 1, que représente cette symbolique? Eh bien, elle représente, H représente toute la mémoire qu'il y a dans le système. Donc j'excite avec une certaine entrée, U, et puis T-taux 1, T c'est le temps courant, et taux 1 c'est un index temporel de lecture de mémoire. Donc on va chercher tout l'historique de l'excitation dans le passé, et on vient le pondérer par un coefficient, H, et ceci décrit de façon parfaite les systèmes linéaires, c'est ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle. Dans les séries de Volterra, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que vous avez plusieurs occurrences de U. Alors ça c'est très important, parce que c'est là que tout va se passer dans la non-linéarité. Si j'ai un seul U, eh bien, si j'excite deux fois plus fort, je vais avoir deux fois U, ça sort de ma formule, et j'ai X qui est double. Maintenant, si j'ai U fois U et que je multiplie par 2, je vais avoir 2 fois 2, je vais avoir 4. Et puis si j'en ai 3, je vais avoir 2 fois 2 fois 2, je vais avoir x8, etc. Donc en fait, dans cette somme, eh bien, on va avoir l'encodage de toutes les non-linéarités rangées par ordre, donc puissance 1, puissance 2, puissance 3, etc. Et donc, en fait, cet outil, il est vraiment intéressant parce que ce qu'il encode, finalement, c'est toutes les distorsions à mémoire de tout type et pour toute forme d'entrée, puisque le U est un signal abstrait. Alors, la question est, peut-on pré-résoudre toutes ces équations de la physique pour leur donner cette forme-là où, finalement, tout a été pré-résolu à travers le noyau et la mémoire, hein, tout ce qui est la mémoire ici? Et la réponse est oui, donc on a eu des nouvelles méthodes scientifiques pour ça. Et je vais vous faire écouter des résultats. Donc, en fait, les séries de Volterra capturent tout ce qui est distorsion raffinée. Donc, le premier exemple que vous allez écouter, c'est un exemple de cuivre qui joue. Et dans le premier cas, il ne va pas y avoir la non-linéarité qui est excitée. Et dans le deuxième cas, on l'a réexcité artificiellement, donc à partir de cette équation et sa résolution comme ça. Et ça donne un son plus timbré. Vous allez voir, c'est assez fin, en fait. Voilà, donc dans le deuxième son, on a activé le cuivrage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir de modèles extrêmement fins, je ne vais pas rentrer dans le détail, et les séries de Volterra vont capturer cette finesse, donc ça ne va pas faire des sons qui vont changer radicalement, hein, c'est plutôt assez fin. Un autre type de son très différent, cette fois-ci de la musique électronique, avec le filtre Moog, donc là c'est des sons assez forts, donc peut-être faudra descendre un petit peu. Donc vous allez entendre la première version qui est la version linéaire, et la deuxième version qui est avec les distorsions. Thank you. Donc ça rajoute la vie, on va dire, au son que souvent, quand on fait les méthodes de base, on perd en synthèse sonore. Donc maintenant, je vais passer au guide d'onde, qui est une technologie qui a été utilisée très tôt. En fait, les premiers modèles physiques qui ont fonctionné en temps réel reposent sur les guides d'onde. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, la question posée, c'est... Alors là, j'ai pris un tube acoustique, on pourrait prendre une corde, hein, mais comment simuler un tube acoustique à faible coût et avec réalisme ? Eh bien, ce qui s'est passé dans les années 60, et ça a commencé même avant, en fait, c'est de, par exemple, pour représenter un conduit vocal, donc là, j'ai mis plutôt un pavillon de trompette, mais ça a été utilisé beaucoup pour la voix, comme c'est indiqué ici par Markel. Eh bien, ce qu'on faisait, c'était de considérer qu'on avait une succession de tubes droits avec des ondes planes dedans, et puis on les raccordait, et puis on calculait toutes les équations, etc. Et finalement, dans un tube droit, on a une onde aller, on a une onde retour. J'ai le laser qui est en train de me lâcher. Hop, voilà, une onde retour. Et du coup, avec ça, les scientifiques étaient capables de se rendre compte qu'on avait dans chaque tube un retard pour l'onde aller, un retard pour l'onde retour, et à chaque jonction, donc à chaque fois qu'on a un changement de section, une onde qui se réfléchit partiellement et une onde qui est partiellement transmise au tronçon suivant. Alors ça a donné lieu à cette structure qui est ici. Alors elle se lie assez simplement, en fait. Ce que vous voyez ici entre les gros carrés gris, ce sont simplement des retards qui disent « mon onde allée va dans ce sens-là et elle va être retardée d'un certain temps en allant dans ce sens-là ». Pour la version du dessous, c'est l'onde retour qui va dans l'autre sens, elle est retardée aussi. Et puis, dans ce carré-là, on a un coefficient qui est le coefficient de réflexion, donc à chaque jonction, ou de transmission, avec toute une structure extrêmement efficace pour le calcul. Ça a permis donc à Markel de le faire pour la voix, à Julius Smith à l'université de Stanford de le faire pour les instruments de musique, et le premier synthétiseur hardware qui est sorti, c'était dans les années 92, c'est le Yamaha VL1, fonctionnait avec ça. Alors évidemment, on n'a pas les pertes, les ondes planes, ce n'est pas réaliste, et donc il y a encore un manque de réalisme dans tout ça. Donc il y a eu des améliorations de fait en prenant des ondes sphériques. Ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'ici, on n'a plus un simple coefficient, mais une mémoire exponentielle, en fait. Et la question qu'on s'est posée, c'est peut-on faire encore mieux ? Et je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais la réponse est oui. Mais cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est ne plus essayer de trouver des ondes avec de la géométrie de plus en plus fine, parce que de toute façon, les fronts d'ondes statiques sur lesquels peuvent voyager des pressions, il n'y en a pas d'autres que les plans, les sphères et puis les cylindres. Mais les cylindres, là, ils nous intéressent pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un redressement de la carte isobare à chaque instant. Et avec ça, on a pu rajouter aussi les pertes et avoir des meilleurs résultats. Voilà, ça nous a permis aussi, et ça c'est juste un petit clin d'œil, avec ces modèles-là, de faire ce qu'on appelle du problème inverse, c'est-à-dire on part d'une cible acoustique, je vous décris pas le détail, et à partir de la cible acoustique qui est souhaitée par, en l'occurrence, un industriel, Buffet Group pour des clarinettes, eh bien, on va pouvoir trouver quelle est la perce qui va nous rendre cette cible acoustique souhaitée par l'industriel. Voilà, alors je vais passer maintenant au système hamiltonien à port. Alors probablement encore un nom que vous ne connaissez pas, mais alors celui-là, il nous intéresse beaucoup depuis surtout 4 années. C'est en fait une discipline qui est bien connue, beaucoup dans le génie des procédés, réacteurs moléculaires, ce genre de choses-là, les gens qui font de la chimie. Et en fait, ce qui se passe derrière ce sigle, donc alors système, toujours parce qu'il s'agit de système physique et entrée-sortie, hein, on a hamiltonien, ça va être relié à la physique, je vais le décrire tout à l'heure, et puis apport, c'est simplement des ports d'interconnexion, ça veut dire qu'on est interconnecté au monde extérieur, ou alors on a un système qui est constitué de plusieurs composants élémentaires, ils sont interconnectés entre eux, donc il s'agit des ports d'interconnexion, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc il s'agit d'un formalisme qui est modulaire, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous garantit des propriétés par connexion de composants multiphysiques. Donc ça, c'est pour nous très intéressant, parce que ça nous amène vers de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les systèmes physiques pour la synthèse sonore comme avant. Donc on considère aujourd'hui qu'un système physique, il est fait de composants qui vont stocker de l'énergie, des composants conservatifs. Alors sur un circuit imprimé, ça peut être des condensateurs, hein, des capacités, ça peut être des bobines. En mécanique, vous pouvez penser à un ressort. Hein, donc si j'étire un ressort, je change l'état d'élongation et il stocke de l'énergie potentielle. Donc on peut le faire dans tous les domaines physiques, hein, même la chimie, comme je disais tout à l'heure. Donc on a des composants conservatifs qui stockent de l'énergie, E, et qui est associé à un état que j'ai appelé X, qui est l'élongation du ressort, par exemple. Il y a aussi des composants qui dissipent. Donc c'est tout ce qui chauffe, typiquement, ou ce qui frotte, hein, les frottements, les résistances, les diodes, voilà. Et ça, ça va dissiper de la puissance. Et puis, on a des sources externes, alors qui peuvent être tout simplement des piles ou un moyen d'action. Hein, ça peut être le musicien avec son diaphragme qui est en train d'envoyer de l'air, par exemple. Et on injecte de la puissance extérieure. Et en fait, on a un formalisme qui est ici, que je ne vais pas détailler, mais qui fait qu'on peut ranger tous les composants un par un, donc tous les composants qui stockent, on va les mettre d'abord, puis tous les composants dissipatifs ensuite, puis toutes les sources externes ensuite. Et la façon dont sont reliés les composants entre eux, eh bien, c'est relié par une relation que j'ai appelée S ici. Et on va vouloir vérifier la physique, c'est-à-dire qu'on a des liaisons conservatives. C'est-à-dire la variation de l'énergie qui est stockée à l'intérieur de ce système est exactement égale à la puissance que j'y mets, moins la puissance qui est dissipée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir tout le temps, qu'on fasse de la mécanique des milieux continus, qu'on fasse de la mécanique des fluides, qu'on fasse de l'électronique, voire qu'on fasse des systèmes multiphysiques, par exemple le haut-parleur, dans lequel on a de l'électronique, du magnétique, de la mécanique, puis de l'acoustique. Donc on va vouloir vraiment vérifier le bilan énergétique complet. Ça nous a permis de faire de la synthèse sonore et de l'aide à la lutherie à partir de dictionnaires de composants virtuels. Donc on construit nos composants et on peut les interconnecter. Et on assure, avant de commencer, je dirais, que la décomposition en partie conservative, dissipative et source va être garantie. Alors, oui, j'avais un son à faire écouter. Par exemple, sur les barres, ça nous a permis de jouer un peu avec la physique. On appelle ça, nous, reprogrammer la physique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de construire des composants qu'on pourrait imaginer avec des technologies dans quelques années, pouvoir construire physiquement, ils se comporteraient vraiment comme ça. Un composant dissipatif, là, pour les barres, on a pris quelque chose qui fait que quand la barre est peu chargée en énergie, c'est-à-dire que je l'excite peu, je vais avoir un amortissement de type bois. Voilà, donc ça, que ma barre résonne comme du bois si je ne tape pas fort. Et puis, si je tape fort, je vais vouloir qu'elle se comporte plutôt comme du métal. Voilà. Et en fait, c'est même mieux que ça, c'est-à-dire que ça va être au fur et à mesure de la dynamique. C'est-à-dire que si je tape très fort, eh bien, je vais avoir un comportement d'abord métal parce que la barre est chargée en énergie, et puis, comme évidemment, elle est en train de se décharger en énergie au fur et à mesure qu'elle rayonne, eh bien, elle va muter progressivement en bois. Donc ça, je vais vous faire écouter ce à quoi ça ressemble. Alors c'est surtout sur le dernier son qu'il faut être attentif, puisque c'est sur celui-là qu'on a d'abord le côté très métallique, parce qu'on est très chargé, puis au fur et à mesure que ça s'éteint, ça doit sonner un peu plus comme du bois. Ouais, on a entendu que la fin. Alors, toujours avec ces dictionnaires de composants, on peut justement avoir des outils logiciels cette fois-ci, où ce qu'on fait, c'est simplement de décrire par quel composant est construit mon instrument ou mon système, et puis décrire aussi avec un graphe de connexion comment ils sont connectés. Et là, donc j'en fais sa promotion, donc Antoine Falaise, qui a soutenu sa thèse en 2016, a fait en langage Python une librairie qui s'appelle PiPHS, pour Port Hamiltonian Systems. Et en fait, on donne le graphe de connexion et les composants, linéaires ou non linéaires. Le module génère lui-même les équations, c'est-à-dire qu'on ne les génère même plus, et il génère aussi du code C pour la simulation en temps réel. Donc par exemple, sur un petit circuit de pédale wah-wah pour guitare, eh bien, on a vraiment rentré les composants à la main, on a donné les valeurs, et puis le module a généré les équations et le code de simulation. Donc, je vais vous faire écouter le résultat. Donc, vous allez entendre ici un échantillon original de guitare électrique sèche, sans traitement. Et maintenant, la version traitée. Voilà. Donc là, je ne sais pas s'il y a des guitaristes parmi vous et qui pratiquent la pédale wah-wah, mais c'est vraiment quelque chose de réaliste. Ça se comporte comme le système physique, et à tel point qu'on peut même éteindre, ça fonctionne avec une pile 9 volts, on peut éteindre la pile de façon simulée pendant qu'on est en train de jouer. Le circuit ne va pas se décharger instantanément, et on va avoir effectivement aussi le comportement du son. Donc on reprogramme vraiment toute la dynamique physique qu'il y a là-dedans, y compris les sources. Alors un autre système qui nous a beaucoup intéressé, c'est le Fender Rhodes. Alors pourquoi ? Parce que c'est un piano mécano-électromagnétique, hein, puisqu'on a de la mécanique du marteau avec des feutres, et le marteau qui vient taper sur une barre, donc la mécanique des milieux continus. La barre vient vibrer devant un transducteur avec bobine et aimant, donc on a du magnétique et de l'électrique, et puis derrière, il y a encore un circuit électrique. Alors là, donc je vais vous faire écouter aussi le résultat qu'on a sur une simple note quand on la frappe de plus en plus fort, et toutes les non-linéarités vont faire que le timbre va varier beaucoup et de façon réaliste. En fait, sur ces pianos-là, il y a des régleurs de piano qui viennent positionner très, très précisément ce qu'on appelle les pick-up devant la barre. Et là, bah, on a accès aux paramètres géométriques, hein, pour le mettre plus ou moins près, plus ou moins sur le côté. Et ça réagit vraiment comme dans la physique. Voilà. Donc, je vous invite à aller consulter cette page-là si vous êtes intéressé, parce que la librairie PIPHS est open. Enfin, c'est une librairie ouverte. Voilà. Donc maintenant, un dernier point, et puis je vais passer rapidement au Snail, donc à la représentation. Donc on a aussi des travaux sur des bandes mesures et puis la robotique. Alors aujourd'hui, on commence un travail sur l'appareil vocal qui est extrêmement compliqué. Donc vous voyez ici des moulages de larynx qu'on a réalisés avec une chirurgienne. Le début d'un robot qui est fait aux mines de Paris, à Paris Tech, avec les projets mécatroniques. Donc ça, c'est le résultat de travail d'étudiants. Et nous, on commence vraiment à travailler là-dessus. Et la modélisation en système hamiltonien à port. Un travail qui a déjà été réalisé et qui est accompli, c'est celui de Nicolas Lopez, toujours en 2016, où on a une bouche artificielle que je ne vais pas décrire, mais qui est complète, qui est complètement robotisée, qui a demandé un long travail en mécanique aussi, hein. Et à partir de laquelle on peut faire des explorations automatisées des notes qui sont jouées, trouver les paramètres de jeu et générer de façon reproductible des notes standards comme des régimes complexes. Voilà. Alors, je passe maintenant rapidement au dernier point, donc représenter le son. Donc après avoir fabriqué le son, comment peut-on le représenter ? Donc une représentation standard, ici il s'agit du logiciel AudioSculpt de l'IRCAM. On a des représentations qu'on appelle temps, fréquence. Hein. Donc ici, on a le déroulé du temps. Ici, on a les fréquences avec les graves ici, les aiguës ici. Et on regarde avec les niveaux de couleurs qui sont là, quelle est la quantité d'énergie à cet instant-là et à cette fréquence-là, mettons. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des outils d'analyse spectrale. Ça repose sur la transformée de Fourier. Il y a aussi d'autres types de transformées en ondelettes. Et là, on a une proposition d'un autre outil, le Snail, qui repose sur ça. Et je vais vous le faire d'abord découvrir sans l'expliquer. Hop. Donc, le voici. Alors, il n'y a pas de son. Je vais peut-être ouvrir. Hop. Non, c'est étonnant. Alors, je vais recommencer. Je vais regarder. Audio Ça fonctionnait tout à l'heure. Ok, donc ça devrait marcher. On recommence. On peut le mettre plus fort. Alors voilà. Philippe, est-ce que je peux prendre encore 2 minutes ou pas ? Oui ? Bon. Alors, j'avais prévu 11 sons. Je ne vais pas faire 11, ça va être trop long. Je vais vous en faire écouter que quelques-uns. Donc, je ne vais pas non plus expliquer comment c'est fait en interne, parce que j'ai pris trop de temps. Mais je vais vous faire écouter celui-ci pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, l'idée, c'est que plutôt que d'afficher le spectre avec les fréquences, hein, si je prends l'axe fréquentiel là, entre mes mains, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler, cet axe fréquentiel. Et on va l'enrouler en faisant chaque tour est égal à une octave. Alors une octave, c'est une multiplication de fréquences par 2. Et ça fait que, eh bien, évidemment, avec la spirale qui se forme, on a une répartition, géométrique des notes par angle. Et ça permet du coup d'avoir une lecture un peu plus musicale du spectre. Et puis il y a une méthode d'analyse aussi qui est plus fine que Fourier, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que je ne vais pas avoir le temps. Donc là vous avez une fréquence pure. C'est un son un peu désagréable, je m'en excuse, mais c'est simplement pour parce qu'il est assez pédagogique pour ça. Donc on a vu une sinusoïde pure qui a fait une excursion de 2 octaves puis qui est revenue. Ensuite, on a vu du bruit blanc qui excitait toutes les fréquences. Et là, on a une décomposition harmonique. Donc la décomposition harmonique, on a ici le fondamental, puis l'harmonique 2 qui est le double de la fréquence. Je continue de tourner. Puis 3 fois la fréquence, on atterrit sur la quinte. Puis 4 fois la fréquence, ben 2 fois 2, c'est l'octave de l'octave. Puis 5, donc là, on arrive sur la tierce majeure un peu bas. Alors pourquoi un peu bas ? Ben parce que ici, elle est exacte, hein, c'est vraiment 1 fois 5, il n'y a pas d'erreur. Mais on a divisé l'octave en 12 parties égales, donc c'est le tempérament égal. Et le tempérament égal n'est pas compatible avec la décomposition harmonique, donc ça se voit. Donc ces traits-là, ils ne changent rien. Hein. D'ailleurs, on peut les retirer. C'est comme du papier millimétré, si vous préférez. Hein. Donc, il faut juste que je retrouve où c'est. Voilà, par exemple, on peut faire ça. La position des composantes harmoniques sont vraiment au même endroit. Et si on veut, on peut mettre une grille, on pourrait en mettre une autre. Hein. Donc là, c'est le tempérament égal qui est représenté. Alors, j'ai passé encore 2 derniers sons et puis je vais m'arrêter. Donc, un, pour vous montrer que ça permet de lire... à vue quasiment des accords d'orgue, par exemple. Alors on voit les composantes qui vibrent. C'est pas une erreur hein, du logiciel, hein, c'est l'instrument qui est comme ça. Dernier son, donc Tensio, donc un très court extrait de Tensio de Philippe Manoury, pour voir aussi des aspects sur l'inharmonicité. Là, on avait des notes qui étaient parfaitement harmoniques, hein, toutes les composantes, notamment en octave, étaient parfaitement alignées. Là, je vais couper, excuse-moi Philippe, c'est pour montrer cette partie-là notamment. Sur cette partie-là, on voit qu'on est quasiment sur un si sur la composante grave, et puis au fur et à mesure qu'on monte dans les harmoniques, et c'est justement, c'est pas des harmoniques, c'est des partiels, et on arrive presque sur un si bémol. Donc là, on voit une inharmonicité qui est forte, alors on peut même la faire dans le détail, hein. Je pars d'ici, j'arrive sur la composante 2, puis la composante 3, puis la composante 4, puis la 5, et on voit que 5... A fois 2, 10, là aussi on a une harmonicité qui est forte. Voilà. Donc je vais rejouer ce son une dernière fois et je m'arrête. Voilà, je vous remercie et je vais aller à ma page de conclusion. Hop, voilà.